Troisième partie. L'esprit qui donne la vie. Point numéro 1. Motif du jubilé de l'an 2000. Le Christ, qui a été conçu du Saint-Esprit. C'est vers le Saint-Esprit que se tournent la pensée et le cœur de l'Église en cette fin de XXe siècle et dans la perspective du troisième millénaire depuis la venue au monde de Jésus-Christ. Tandis que nous portons notre regard vers le grand jubilé par lequel l'Église célébrera l'événement. Cette venue prend place en effet dans l'ordre du temps humain comme un événement qui appartient à l'histoire de l'homme sur la terre. La mesure du temps, habituellement adoptée, situe les années, les siècles, les millénaires, selon qu'ils s'écoulent avant ou après la naissance du Christ. Mais il faut aussi avoir conscience que cet événement signifie pour nous chrétiens, selon l'apôtre, la plénitude du temps, car, par lui, c'est la mesure de Dieu lui-même qui a totalement marqué l'histoire de l'homme. Une présence transcendante dans le nunc, l'aujourd'hui éternel. Celui qui est, qui était et qui vient. Celui qui est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le principe et la fin. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle. Quand vint la plénitude du temps, Dieu envoya son Fils, né d'une femme, afin de nous conférer l'adoption filiale. Et cette incarnation du Fils-Verbe est advenue par l'Esprit-Saint. Les deux évangélistes auxquels nous devons le récit de la naissance et de l'enfance de Jésus de Nazareth s'expriment sur cette question de la même manière. Selon Luc, lors de l'annonciation de la naissance de Jésus, Marie demande « Comment cela sera-t-il, puisque je ne connais pas d'homme ?» Et elle reçoit cette réponse « L'Esprit-Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi l'être saint qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. » Matthieu raconte directement « Telle fut la jeunesse de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Or, avant qu'ils eussent mené vie commune, elle se trouva enceinte par le fait de l'Esprit-Saint. Troublé par cet état de choses, Joseph reçut durant son sommeil l'explication suivante. « Ne crains pas de prendre chez toi, Marie, ta femme, car ce qui a été engendré en elle vient de l'Esprit-Saint. Elle enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Aussi, l'Église, depuis les origines, professe-t-elle le mystère de l'incarnation, ce mystère central de la foi, en se référant à l'Esprit-Saint. Ainsi s'exprime le symbole des apôtres. Il a été conçu du Saint-Esprit, et né de la Vierge Marie. Ce n'est pas autrement que le symbole de Nicée-Constantinople atteste. Par l'Esprit-Saint, il a pris la chair de la Vierge et s'est fait homme. Par l'Esprit-Saint, s'est fait homme celui dont l'Église proclame, selon les termes mêmes du symbole, qu'il est le Fils de même nature que le Père. Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré, non pas créé. Il s'est fait homme en prenant chair de la Vierge Marie. Voilà ce qui s'accomplit quand vient la plénitude du temps. Le grand jubilé, qui conclura le second millénaire et auquel l'Église se prépare déjà, a directement un profil christologique. Il s'agit en effet de célébrer la naissance de Jésus-Christ. En même temps, il a un profil pneumatologique, puisque le mystère de l'incarnation s'est accompli par le Saint-Esprit. Ce fut l'œuvre de cet esprit qui, consubstantiel au Père et au Fils, est dans le mystère absolu de Dieu un et trine, le Père amour, le don incréé, source éternelle de tout don, qui provient de Dieu dans l'ordre de la création, le principe direct et en un sens, le sujet de la communication que Dieu fait de lui-même dans l'ordre de la grâce. De ce don, de cette communication que Dieu fait de lui-même, le mystère de l'incarnation constitue le sommet. En effet, la conception et la naissance de Jésus-Christ sont l'œuvre la plus grande accomplie par l'Esprit-Saint dans l'histoire de la création et du salut, c'est-à-dire la grâce suprême, la grâce d'union, source de toute autre grâce, comme l'explique saint Thomas. Le grand jubilé se rapporte à cette œuvre et se rapporte aussi, si nous approfondissons son sens, à l'artisan de cette œuvre, à la personne de l'Esprit-Saint. À la plénitude du temps correspond, en effet, une particulière plénitude de la communication que le Dieu un et trine fait de lui-même dans l'Esprit-Saint. Par le Saint-Esprit s'accomplit le mystère de l'union hypostatique, c'est-à-dire l'union de la nature divine avec la nature humaine, de la divinité avec l'humanité, dans l'unique personne du Verbe-Fils. Quand Marie, au moment de l'Annonciation, prononce son fiat, qu'il m'advienne selon ta parole, elle conçoit de façon virginale un homme, le fils de l'homme, qui est le fils de Dieu. Grâce à une telle humanisation du verbe fils, la communication que Dieu fait de lui-même atteint sa plénitude définitive dans l'histoire de la création et du salut. Cette plénitude acquiert une densité particulière et une éloquence très expressive dans le texte de l'évangile de Jean. Le Verbe s'est fait chair. L'incarnation de Dieu signifie que la nature humaine est élevée à l'unité avec Dieu, mais aussi, en elle, en un sens, tout ce qui est chair, toute humanité, tout le monde visible et matériel. L'incarnation a donc aussi un sens cosmique, une dimension cosmique. Le premier-né de toute créature, en s'incarnant dans l'humanité individuelle du Christ, s'unit en quelque sorte avec toute la réalité de l'homme, qui est aussi chair, et, en elle-même, avec toute chair, avec toute la création. Tout cela s'accomplit par l'Esprit Saint, et appartient par conséquent au contenu du futur grand jubilé. L'Église ne peut se préparer à ce jubilé autrement que dans l'Esprit Saint. Ce qui, dans la plénitude du temps, s'est accompli par l'Esprit Saint, ne peut maintenant ressortir dans la mémoire de l'Église que par lui. C'est par lui que cela peut être rendu présent dans la nouvelle phase de l'histoire de l'homme sur la terre, l'an 2000 après la naissance du Christ. L'Esprit Saint qui, par sa puissance, prit sous son ombre le corps virginal de Marie, réalisant en elle le début de la maternité divine, rendit en même temps son cœur parfaitement obéissant à l'égard de cette communication que Dieu fit de lui-même et qui surpassait toute pensée et toute capacité de l'homme. Bienheureuse, celle qui a cru. Voilà la salutation que reçoit Marie de la part de sa parente Élisabeth, elle aussi remplie de l'Esprit Saint. Dans les paroles qui saluent, celle qui a cru, il semble que l'on puisse voir un contraste lointain, mais en réalité très proche, avec tous ceux dont le Christ dira qu'ils n'ont pas cru. Marie est entrée dans l'histoire du salut du monde par l'obéissance de la foi, et la foi, dans sa nature la plus profonde, est l'ouverture du cœur humain devant le don, devant la communication que Dieu fait de lui-même dans l'Esprit Saint. Saint Paul écrit « Le Seigneur, c'est l'Esprit, et où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Quand le Dieu un et trine s'ouvre à l'homme dans l'Esprit Saint, cette ouverture révèle et, en même temps, donne à la créature homme la plénitude de la liberté. Cette plénitude s'est manifestée de façon sublime, précisément dans la foi de Marie, par l'obéissance de la foi. Oui, bienheureuse celle qui a cru. Deuxième point. Motif du jubilé. La grâce s'est manifestée. Dans le mystère de l'incarnation, l'œuvre de l'Esprit, qui donne la vie, atteint son sommet. Il n'est pas possible de donner la vie, dont la plénitude est en Dieu, qu'en faisant la vie d'un homme, à savoir le Christ dans son humanité personnifiée par le Verbe dans l'union hypostatique. En même temps, par le mystère de l'incarnation, jaillit d'une nouvelle manière la source de cette vie divine dans l'histoire de l'humanité, l'Esprit Saint. Le Verbe, premier-né de toute créature, devient l'aîné d'une multitude de frères, et il devient ainsi la tête du corps qu'est l'Église, laquelle naîtra de la croix et sera manifestée le jour de la Pentecôte, et, dans l'Église, il sera la tête de l'humanité, des personnes de toute nation, de toute race, de tout pays et de toute culture, de toute langue et de tout continent, tous appelés au salut. Le Verbe s'est fait chair, lui en qui était la vie, et la vie était la lumière des hommes, à tous ceux qui l'ont accueilli. Il a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Mais tout cela s'est accompli, et s'accomplit sans cesse, par l'Esprit Saint. Ils sont en effet enfants de Dieu, d'après l'enseignement de l'apôtre, tous ceux qu'anime l'Esprit de Dieu. La filiation de l'adoption divine naît dans les hommes à partir du mystère de l'incarnation. Donc grâce au Christ, le Fils éternel. Mais la naissance ou la renaissance se réalise lorsque Dieu le Père envoie dans nos cœurs l'Esprit de son Fils. Car nous recevons alors un Esprit de Fils adoptif qui nous fait écrier « Abba, Père ». Ainsi donc, cette filiation de Dieu, greffée dans l'âme humaine par la grâce sanctifiante, est l'œuvre de l'Esprit Saint. L'Esprit en personne se joint à notre esprit pour attester que nous sommes enfants de Dieu. Enfants et donc héritiers, héritiers du Dieu et co-héritiers du Christ. La grâce sanctifiante est dans l'homme le principe et la source de vie nouvelle, vie divine, surnaturelle. Le don de cette vie nouvelle est comme la réponse définitive de Dieu aux paroles du psalmiste, dans lesquelles, en quelque sorte, la voix de toutes les créatures trouve un écho. Tu envoies ton souffle, ils sont créés, tu renouvelles la face de la terre. Celui qui, Dans le mystère de la création, donne à l'homme et au cosmos la vie sous ses multiples formes visibles et invisibles, la renouvelle encore par le mystère de l'incarnation. La création est ainsi complétée par l'incarnation et pénétrée dès lors par les forces de la rédemption qui envahissent l'humanité et toute la création. C'est ce que dit saint Paul. Sa vision cosmique et théologique semble reprendre les termes du psaume ancien. La création, en attente, aspire à la révélation des fils de Dieu, c'est-à-dire de ce que Dieu a d'avance discerné et aussi prédestiné à reproduire l'image de son Fils. Les hommes connaissent ainsi une adoption filiale, surnaturelle, et le Saint-Esprit, amour et don, en est l'origine. Comme tel, il est donné aux hommes, et de la surabondance du don incréé, chaque homme reçoit dans son cœur le don créé particulier pour lequel les hommes deviennent participants de la vie divine. Ainsi, la vie humaine est pénétrée de la vie divine à laquelle elle participe, et elle acquiert, elle aussi, une dimension divine surnaturelle. Ainsi naît la vie nouvelle, par laquelle, en participant au mystère de l'incarnation, les hommes accèdent dans l'Esprit Saint auprès du Père. Il y a donc une étroite dépendance de causalité entre l'Esprit qui donne la vie, la grâce sanctifiante, et la vitalité surnaturelle multiforme qui en découle dans l'homme, entre l'Esprit incréé et l'Esprit humain créé. On peut dire que tout cela rentre dans le cadre du grand jubilé déjà évoqué, car il faut dépasser la dimension historique du fait, considéré superficiellement. Il faut joindre au contenu christologique de l'événement la dimension pneumatologique, en regardant dans la foi l'ensemble des deux millénaires où s'est exercée l'action de l'Esprit de vérité. Celui-ci, au cours des siècles, a puisé au trésor de la rédemption du Christ, donnant aux hommes la vie nouvelle, réalisant en eux l'adoption dans le Fils unique, les sanctifiant, en sorte qu'ils peuvent redire à la suite de saint Paul, « Nous avons reçu l'Esprit de Dieu ». Mais en considérant ce motif du jubilé, il n'est pas possible de se limiter aux 2000 ans écoulés depuis la naissance du Christ. Il faut remonter en arrière, embrasser toute l'action de l'Esprit Saint avant le Christ, depuis le commencement, dans tout le monde entier et spécialement dans l'économie de l'Ancienne Alliance. Cette action, en effet, en tout lieu et en tout temps, même en tout homme, s'est accomplie selon l'éternel dessein de salut, dans lequel elle est étroitement unie au mystère de l'incarnation et de la rédemption. Ce mystère avait lui-même exercé son influence sur ceux qui croyaient au Christ à venir. La lettre aux Éphésiens l'atteste de façon particulière. Ainsi, la grâce comporte en même temps un caractère christologique et un caractère pneumatologique, qui se retrouve surtout en ceux qui adhèrent explicitement au Christ. En lui, vous avez été marqués d'un sceau par l'Esprit de la promesse, cet Esprit Saint qui constitue les arts de notre héritage et prépare la rédemption du peuple que Dieu s'est acquis. Mais, toujours dans la perspective du grand jubilé, nous devons aussi porter plus loin notre regard et avancer vers le large, en sachant que le vent souffle où il veut, selon l'image employée par Jésus dans la conversation avec Nicodème. Le Concile Vatican II, centré principalement sur le thème de l'Église, nous rappelle que l'Esprit Saint agit aussi à l'extérieur du corps visible de l'Église. Il parle justement de tous les hommes de bonne volonté dans le cœur desquels, invisiblement, agit la grâce. En effet, puisque le Christ est mort pour tous, et que la vocation dernière de l'homme est réellement unique, à savoir divine, nous devons tenir que l'Esprit Saint offre à tous, d'une façon que Dieu connaît, la possibilité d'être associé au mystère pascal. Dieu est esprit, et ceux qui adorent, c'est dans l'esprit de la vérité qu'ils doivent adorer. Ces paroles, Jésus les a dites à la Samaritaine, dans un autre de ses dialogues. Le grand jubilé, qui sera célébré au terme de ce millénaire et au début du suivant, doit être un puissant rappel adressé à tous ceux qui adorent Dieu dans l'esprit de vérité. Il doit être pour tous une occasion particulière de méditer le mystère de Dieu un et trine, qui, en lui-même, est absolument transcendant par rapport au monde, spécialement par rapport au monde visible. Il est en effet esprit au sens absolu. Dieu est esprit, et en même temps, d'une façon admirable, il est non seulement proche de ce monde, mais il y est présent, et en un sens immanent, il pénètre et vivifie de l'intérieur. Cela vaut d'une manière spéciale pour l'homme. Dieu est présent dans la profondeur de son être, de sa pensée, de sa conscience, de son cœur, réalité psychologique et ontologique, qui faisait dire à saint Augustin, en parlant de Dieu, « interior intimo meo ». Ces paroles nous aident à mieux comprendre celles que Jésus adressait à la Samaritaine. Dieu est esprit. Seul l'esprit peut être intérieur intimo meo, plus intime à moi-même que moi-même. au niveau de l'être ou au niveau de l'expérience spirituelle. Seul l'esprit peut être à ce point immanent à l'homme et au monde, en demeurant inviolable et sans changement dans son absolue transcendance. Mais, en Jésus-Christ, la présence divine dans le monde et dans l'homme s'est manifestée de façon nouvelle et sous forme visible. En lui, véritablement, la grâce s'est manifestée. L'amour de Dieu le Père, le don, grâce infinie, principe de vie, est devenu visible dans le Christ. Et, par l'humanité du Christ, il est devenu partie de l'univers, du genre humain, de l'histoire. Cette manifestation de la grâce dans l'histoire de l'homme, en Jésus-Christ, s'est accomplie par l'Esprit Saint, qui est le principe de toute action salvifique de Dieu dans le monde. Lui, le Dieu caché, qui comme amour et don remplit l'univers. Toute la vie de l'Église, telle qu'elle se manifestera dans le grand jubilé, signifie aller à la rencontre du Dieu invisible, à la rencontre de l'Esprit qui donne la vie. Troisième point, l'Esprit Saint dans le conflit interne de l'homme. La chair, en ses désirs, s'oppose à l'Esprit, et l'Esprit à la chair. Hélas, l'histoire du salut le montre, cette proximité et cette présence de Dieu à l'homme et au monde, cette admirable condescendance de l'Esprit, rencontre dans notre réalité humaine résistance et opposition. Quelle éloquence revêtent, de ce point de vue, les paroles prophétiques du vieillard Siméon qui, poussé par l'Esprit, vint au temple de Jérusalem pour annoncer devant le nouveau-né de Bethléem qu'il devait amener la chute et le relèvement d'un grand nombre en Israël, signe en but à la contradiction. L'opposition à Dieu, qui est l'Esprit invisible, naît déjà, dans une certaine mesure, sur le terrain de la différence radicale du monde par rapport à lui, c'est-à-dire de sa visibilité et de sa matérialité par rapport à lui qui est invisible et esprit au sens absolu. Elle naît de son imperfection naturelle et inévitable par rapport à lui, l'être absolument parfait. Mais l'opposition devient conflit, rébellion, sur le plan éthique, à cause du péché qui prend possession du corps humain, dans lequel la chair s'oppose à l'esprit et l'esprit à la chair. Ce péché, l'Esprit Saint doit le mettre en lumière dans le monde, comme nous l'avons dit. Saint Paul est celui qui décrit avec une particulière éloquence la tension et la chute qui agitent le cœur humain. Écoutez-moi, lisons-nous dans la lettre aux Galates. Marchez sous l'impulsion de l'esprit, et vous n'accomplirez plus ce que la chair désire. Car la chair, en ses désirs, s'oppose à l'esprit, et l'esprit à la chair. Entre eux, c'est l'antagonisme. Aussi, ne faites-vous pas ce que vous voulez. Déjà, dans l'homme, parce qu'il est un être composé, esprit et corps, il existe une certaine tension. Il se déroule une certaine lutte de tendance entre l'esprit et la chair. Mais cette lutte, en fait, appartient à l'héritage du péché. Elle en est une conséquence et, en même temps, une confirmation. Elle fait partie de l'expérience quotidienne, comme l'écrit l'apôtre. On sait bien que tout ce que produit la chair, fornication, impureté, débauche, orgie, ripaille et choses semblables. Il s'agit là des péchés qu'on pourrait qualifier de charnels. L'apôtre en ajoute d'autres encore. Haine, discorde, jalousie, dissension, division, scission, sentiment d'envie. Tout cela constitue les œuvres de la chair. Mais à ces œuvres, qui sont indubitablement mauvaises, Paul oppose le fruit de l'esprit, qui est charité, joie, paix, longanimité, serviabilité, bonté, confiance dans les autres, douceur, maîtrise de soi. Du contexte, il ressort clairement que, pour l'apôtre, il ne s'agit pas de mépriser et de condamner le corps qui, avec l'âme spirituelle, constitue la nature de l'homme et sa personnalité de sujet. Il traite, par des œuvres ou plutôt par des dispositions stables, vertus et vices, moralement bonnes ou mauvaises, qui sont le fruit de la soumission, ou au contraire de la résistance à l'action salvatrice de l'Esprit Saint. C'est pourquoi l'apôtre écrit « Puisque l'Esprit est notre vie, que l'Esprit nous fasse aussi agir. » Et dans d'autres passages, ceux en effet qui vivent selon la chair désirent ce qui est charnel, ceux qui vivent selon l'Esprit, ce qui est spirituel. Vous êtes sous l'emprise de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. L'opposition que saint Paul montre entre la vie selon l'Esprit et la vie selon la chair entraîne une autre opposition, celle de la vie et celle de la mort. Le désir de la chair, c'est la mort, tandis que le désir de l'esprit, c'est la vie et la paix. D'où l'avertissement, si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'esprit vous faites mourir les œuvres du corps, vous vivrez. Tout bien considéré, il y a là une exhortation à vivre dans la vérité, c'est-à-dire selon les exigences de la conscience droite, et il s'agit en même temps d'une profession de foi dans l'esprit de vérité, celui qui donne la vie. Le corps, en effet, est mort en raison du péché, mais l'esprit est vie en raison de la justice. Ainsi donc, nous sommes débiteurs, mais non point envers la chair pour vivre selon la chair. Nous sommes plutôt débiteurs envers le Christ qui, dans le mystère pascal, a accompli notre justification en nous obtenant l'Esprit Saint. Quelqu'un a payé le prix de votre rachat. Dans les textes de saint Paul, se superpose et s'imbrique la dimension ontologique, la chair et l'esprit, et la dimension éthique, le bien et le mal moral, la dimension pneumatologique, l'action de l'Esprit Saint dans l'ordre de la grâce. Ces paroles, spécialement dans les lettres aux Romains et aux Galates, nous font connaître et ressentir vivement la vigueur de la tension et de la lutte qui se déroule dans l'homme entre, d'un côté, l'ouverture à l'action de l'Esprit Saint et, de l'autre, la résistance et l'opposition à son égard, à son don salvifique. Les termes ou les pôles opposés sont, de la part de l'homme, ses limitations et son caractère pécheur, point névralgique de sa réalité psychologique et éthique, et, de la part de Dieu, le mystère du don, ce don incessant de la vie divine dans l'Esprit Saint. Qui sera victorieux? Celui qui aura su accueillir le don. Malheureusement, la résistance à l'Esprit Saint, que saint Paul souligne dans sa dimension intérieure et subjective, comme une tension, une lutte, une rébellion survenant dans le cœur humain, trouve, aux diverses époques de l'histoire, et spécialement à l'époque moderne, sa dimension extérieure concrétisée, dans le contenu de la culture et de la civilisation, par les systèmes philosophiques, les idéologies, les programmes d'action et de formation des comportements humains. Elle trouve son expression la plus importante dans le matérialisme, aussi bien sous sa forme théorique, comme système de pensée, que sous sa forme pratique, comme méthode de lecture et d'évaluation des faits, et aussi comme programme des comportements correspondants. Le système qui a donné le plus grand développement à cette forme de pensée, d'idéologie et de praxis, et qui l'a porté aux plus extrêmes conséquences sur le plan de l'action, est le matérialisme dialectique et historique, encore reconnu comme le noyau substantiel du marxisme. Par principe et en fait, le matérialisme exclut radicalement la présence de l'action de Dieu, qui est l'esprit, dans le monde et par-dessus tout, dans l'homme, pour la raison fondamentale qu'il n'accepte pas son existence, puisqu'il est, tant soit, dans un programme, un système athée. L'athéisme est le phénomène impressionnant de notre temps. Le Concile Vatican II lui a consacré quelques pages significatives. Même si l'on ne peut parler de l'athéisme de manière univoque, et si l'on ne peut le réduire exclusivement à la philosophie matérialiste, étant donné qu'il existe diverses formes d'athéisme, et que l'on peut dire sans doute que ce mot est souvent employé dans un sens équivoque, il est toutefois certain qu'un matérialisme véritable, au sens propre du terme, a un caractère athée. Lorsque l'on l'entend comme une théorie qui explique la réalité et lorsque l'on l'adopte pour premier principe de l'action personnelle ou sociale, l'horizon des valeurs et des fins de l'agir que le matérialisme détermine est étroitement lié à l'interprétation de la totalité de la réalité comme matière. Si, parfois, il parle encore de l'esprit et des questions de l'esprit, par exemple dans le domaine de la culture ou de la morale, il le fait seulement en considérant certains faits comme dérivés, épiphénomènes de la matière, qui est, selon ce système, la forme unique et exclusive de l'être. Il s'ensuit que, selon cette interprétation, la religion ne peut se comprendre que comme une sorte d'illusion idéaliste, à combattre selon les manières et les méthodes les plus appropriées aux lieux et aux circonstances historiques, pour l'éliminer de la société et du cœur même de l'homme. On peut dire que le matérialisme est le développement systématique et cohérent de la résistance et de l'opposition dénoncée par saint Paul lorsqu'il dit « La chair s'oppose à l'esprit ». Cette réalité conflictuelle est cependant réciproque, comme le souligne l'apôtre dans la seconde partie de son aphorisme « L'esprit s'oppose à la chair ». Celui qui veut vivre selon l'esprit, en acceptant son action salvifique et en s'y conformant, ne peut pas ne pas repousser les tendances et les prétentions de la chair, qu'elles soient intérieures ou extérieures, y compris dans l'expression idéologique et historique de matérialisme anti-religieux. Sur cette toile de fond, si caractéristique de notre temps, il faut souligner les désirs de l'esprit dans la préparation du grand jubilé. Ils sont des appels qui résonnent dans la nuit d'une nouvelle période de l'Avent, au terme de laquelle, comme il y a 2000 ans, toute chair verra le salut de Dieu. Voilà une possibilité et une espérance que l'Église confie aux hommes d'aujourd'hui. Elle sait que la rencontre, l'affrontement entre, d'une part, les désirs contraires à l'esprit, qui caractérisent tant d'aspects de la civilisation contemporaine, spécialement en certains domaines, et d'autre part, les désirs contraires à la chair, avec le fait que Dieu s'est rendu proche de nous, avec son incarnation, avec la communication toujours nouvelle qu'il fait de lui-même dans l'Esprit Saint, peut présenter en certains cas un caractère dramatique et aboutir peut-être à de nouvelles défaites humaines. Mais l'Église croit fermement que, pour sa part, Dieu ne cesse de se donner lui-même pour le salut, de venir pour le salut, et, au besoin, de manifester le péché pour le salut et par l'Esprit. Dans l'opposition paulienne entre l'Esprit et la chair s'inscrit aussi l'opposition entre la vie et la mort. Il s'agit là d'un grave problème, et il faut dire aussitôt, à ce propos, que le matérialisme, comme système de pensée, dans toutes ses versions, signifie l'acceptation de la mort comme terme définitif de l'existence humaine. Tout ce qui est matériel est corruptible, et par conséquent, le corps humain, en tant qu'animal, est mortel. Si l'homme, dans son essence, n'est pas chair, la mort demeure pour lui une frontière et un terme infranchissable. On comprend alors comment on arrive à dire que la vie humaine n'est rien d'autre qu'un exister pour mourir. Il faut ajouter que, à l'horizon de la civilisation contemporaine, spécialement là où elle s'est le plus développée d'un point de vue technique et scientifique, les signes et les signaux de mort sont devenus particulièrement présents et fréquents. Il suffit de penser à la course aux armements et aux dangers qu'elle comporte d'une autodestruction nucléaire. D'autre part, tous peuvent constater de plus en plus la situation grave de vastes régions de notre planète, affectées par l'indigence et la faim, porteuses de mort. Il ne s'agit pas seulement de problèmes économiques, mais aussi et avant tout de problèmes éthiques. Cependant, à l'horizon de notre époque, s'accumulent des signes de mort encore plus sombres. L'usage s'y est répandu, et en certains lieux, il risque même de devenir presque une institution, d'ôter la vie aux êtres humains avant même leur naissance, ou avant qu'ils ne soient déjà arrivés au seuil naturel de la mort. Il faut ajouter que, malgré tant de nobles efforts en faveur de la paix, de nouvelles guerres ont éclaté et sont en cours. Elles privent de la vie ou de la santé de centaines de milliers d'êtres humains. Et comment ne pas rappeler les attentats contre la vie humaine qui viennent du terrorisme organisé à l'échelle internationale? Hélas, ce n'est là qu'une esquisse partielle et incomplète du tableau de mort qu'on est en train de composer à notre époque, alors que nous sommes de plus en plus proches de la fin du deuxième millénaire du christianisme. Est-ce que des sombres couleurs de la civilisation matérialiste, et en particulier de ces signes de mort qui se multiplient dans le cadre sociologique et historique où elle s'est développée, ne montrent pas, plus ou moins consciente, une nouvelle invocation à l'esprit qui donne la vie? En tout cas, même indépendamment de l'ampleur des espoirs ou des désespoirs humains, comme des illusions ou des duperies, qui résulte du développement des systèmes matérialistes de pensée et de vie, la certitude chrétienne demeure que l'esprit souffle où il veut que nous possédons les prémices de l'esprit. Que, par conséquent, nous pouvons sans doute endurer les souffrances du temps qui passe, mais nous gémissons intérieurement dans l'attente de la rédemption de notre corps, c'est-à-dire de tout notre être humain qui est corporel et spirituel. Oui, nous gémissons, mais dans une attente chargée d'une espérance indéfectible, justement parce que Dieu, qui est esprit, s'est rendu proche de cet être humain que nous sommes. Dieu le Père, en envoyant son Fils avec une chair semblable à celle du péché et en vue du péché, a condamné le péché. Au sommet du mystère pascal, le Fils de Dieu, fait homme et crucifié pour les péchés du monde, s'est présenté au milieu de ses apôtres, après la résurrection. Il a envoyé sur eux le souffle et il a dit: Recevez l'Esprit Saint. Ce souffle continue toujours. Et voici que l'Esprit vient au secours de notre faiblesse.